Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Micheline Prel, In Memoria. Cette émission d'Antiquissimo, en effet, entend rendre un hommage appuyé à une grande dame du cinéma français, Micheline Prel, et peut-être en passant aussi à deux autres de ses petites camarades, car si on égrène ce petit chapelet, Danielle Darrieux, morte en 2017 alors qu'elle était centenaire, Michèle Morgan, morte en 2016 et elle n'avait que 96 ans, et enfin Micheline Prel, qui vient donc de nous quitter en février 2024 et qui, elle, allait bientôt avoir ses 102 ans bien sonnés. Ces trois grandes dames, eh bien, évidemment, tout le monde connaît leurs noms, même parmi les plus jeunes, même si certains n'ont pas vu de leurs films. Ce sont des noms connus, car ce sont ce qu'on peut appeler des stars, des divas. Ce terme ayant un petit peu disparu aujourd'hui, et leur étant particulièrement le qualificatif adapté. Donc, ces trois grandes dames, outre qu'elles ont vécu très longtemps, outre qu'elles ont été très célèbres, outre qu'elles sont françaises, outre qu'elles ont, on en donnera un petit aperçu, une filmographie étonnamment dense et variée, elles ont un point commun, notre invitée Claude Aziza, que je salue tout de suite. Bonjour Claude Aziza.
Bonjour.
Claude Aziza va s'empresser de nous le dire. Le point commun qui pourrait intéresser notre émission Antiquissimo, passionnée par l'Antiquité, eh bien c'est le péplum.
Oui, d'une façon assez bizarre, parce qu'on compte dans ces, après la guerre, sur les doigts d'une main d'ailleurs, les acteurs français qui ont tourné dans les péplums, suite après la guerre. Mais d'une façon assez curieuse, elles ont joué dans trois films à l'antique différents.
Donc chacune trois, vous voulez dire, ou bien...
Chacune a joué dans un film.
Ah, dans un film, voilà. D'accord.
Alors,
disons tout de suite qu'on a choisi cet ordre qui pourrait paraître subjectif, Danielle Darrieux, Michèle Morgan, Micheline Prel, qui ne correspond pas à une chronologie les concernant stricte, mais on a choisi d'en parler dans cet ordre-là, en suivant l'importance de leur participation au péplum.
Oui, et puis peut-être aussi en tenant compte du fait que, même si le terme de péplum... Aujourd'hui, galvaudé recoupe tous les films sur l'Antiquité, en tenant compte du fait, disais-je, que Danielle Darrieux a joué dans un film historique américain qui s'appelle Alexandre le Grand, qui est un film de Robert Rossen, tourné en 1954, où elle joue le rôle moyen, si vous voulez, d'Olympias, la mère d'Alexandre le Grand, lequel Alexandre le Grand a été joué par Richard Burton, et Philippe de Macédoine par Frédéric March. Ce sont deux grands acteurs américains que tout le monde connaissait. Et...
Donc une carrière internationale.
Oui, une carrière internationale, mais bon, elle n'a pas un rôle de premier plan comme ces deux petites camarades, comme vous dites, auront eu auparavant. Donc oui. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer...
Manipulant le futur antérieur avec...
Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer directement sur...
Celle qui a eu moins d'importance pour le
péplum. Oui, voilà. Je pense qu'elle a fait partie d'une coproduction internationale et elle a joué ce rôle-là.
On aurait pu dire, mais ça semble évident, que c'était trois belles femmes, en tout cas selon l'esthétique de l'époque.
Oui.
Trois très belles femmes.
Alors, on arrive à deux films, l'un qui est italien, l'autre qui est français. Alors, quand je dis italien et français, ça veut dire que le réalisateur est dans le premier cas italien et dans le second français, mais en fait, après la guerre, dans ces années 45, 46, 47, on va parler d'un film de 47, ce sont des coproductions franco-italiennes. Le cinéma italien, comme le cinéma français d'ailleurs, les deux se relèvent difficilement de la Deuxième Guerre mondiale, donc ils allient un petit peu leurs ressources financières. Ce sont toujours des coproductions. Alors peut-être parlons de la première de ces deux coproductions. qui ont donc le point commun, le premier point commun, c'est d'être tourné dans un premier cas, d'avoir pour vedette Michel Morgan, dans le second, Micheline Prel, mais il y a également autre chose, c'est que toutes ces deux films, dont elles sont les vedettes, sont tirés de deux romans historiques du 19e siècle, sur lesquels il faut forcément dire quelques mots. Celui de, où joue Micheline Prel se nomme Fabiola. C'est un roman qui a été écrit par le cardinal Wiesmann en 1854. C'est un roman important pour l'époque. C'est un roman important, pourquoi ? Parce que le cardinal Wiesmann, qui est un lettré immense, et cardinal, il est à Rome au moment où va naître ce qu'on va appeler l'archéologie chrétienne, où le chevalier de Rossi va montrer qu'il y a une autre archéologie, les catacombes, ça. Donc Fabiola, le roman est écrit comme ça. Alors que
Et donc le film s'appellera aussi Fabiola.
Fabiola. Il y a eu beaucoup d'adaptations de Fabiola. Même si la dernière adaptation, d'ailleurs, s'appelle « La révolte des esclaves », c'est un Fabiola du pauvre, où nous verrons avec joie tourner Serge Gainsbourg.
On en avait parlé dans une émission qui nous avait fait beaucoup rire.
Voilà. Et donc, le second roman qui inspire le cinéma, donc où va tourner Micheline Prel, s'appelle « Les derniers jours de Pompéi ». C'est un roman antérieur. De 20 ans, 1834, Edward Bulwer Lytton, et il est consacré à... c'est le premier de tous les romans qui vont parler, évidemment, de l'éruption et de la destruction de Pompéi. Non pas en août, comme on l'a
dit. C'est du noir et blanc.
Mais, oui, c'est du noir et blanc, mais en octobre 79. Voilà. Et, alors, commençons par Fabiola, parce que Fabiola est tourné en 47 et sortira au cinéma en 49, alors que Les derniers jours de Pompéi est tourné en 48 et sortira au cinéma en 50. Alors ces délais montrent bien qu'il y a des difficultés de fin de film, de production.
Pour trouver de l'argent.
Et, oui, et puis en même temps, même quand le film est terminé, il faut savoir comment le distribuer. C'est un peu compliqué après la guerre. Donc... Fabiola est interprétée par Michel Morgan. Ce sera son seul rôle antique, c'est Michel Morgan, donc elle est aussi connue par son rôle de Jeanne d'Arc, hein, elle a, peu importe. Et puis c'est Quai des Brumes, et puis c'est T'as de beaux yeux, tu sais. Bon. Alors elle tourne là, le seul problème avec Fabiola, qui est un film d'Alessandro Blasetti. C'est un auteur, un réalisateur italien qui s'est un petit peu compromis sous le fascisme, mais bon, c'est un bon réalisateur. Et le problème avec Fabiola, c'est que c'est un roman sulpicien, c'est un roman, il faut bien le dire maintenant, d'un ennui mortel. oui, parce que c'est en fait l'histoire de Saint-Sébastien, Fabiola. Donc Fabiola, c'est toujours la même chose. Voilà. C'est tous ces romans, c'est la même chose. On a un chrétien, un païen ou une païenne et qui aime un chrétien ou une chrétienne et qui, à la fin, va finir par se convertir. Alors, l'intérêt de Fabiola, c'est d'abord qu'il est joué par de grands acteurs français. Alors, Fabiola se passe juste avant l'arrivée de Constantin au pouvoir, sous le règne de Maxence. Et donc, on a Michel Simon, Louis Salou, qu'on a un peu oublié, mais qui est une des grandes vedettes des Enfants du Paradis, un grand acteur français, et Michel Morgan, et un beau jeune homme, qui arrive et qui fait ses débuts dans le cinéma français, qui s'appelle Henri Vidal, et là, entre les deux, il va y avoir une passion extraordinaire qui va se tourner avant Cléopâtre, avant Elizabeth Taylor et
Burton.
Et Burton, qui se tourne, donc... La scène se tourne, une des parties se tourne à Ostie, et on va voir une espèce une scène devenue mythique, c'est-à-dire au bord de la mer, tous les deux, baisés sous les étoiles. Un seul petit problème, c'est que le réalisateur n'a pas vu qu'il y avait des fils électriques au-dessus, et qu'on va voir dans le film, c'est un peu...
Bah oui, l'amour rend aveugle.
Voilà. Ou l'électricité, si vous voulez. Alors, il a fallu arranger un petit peu l'histoire. Donc, on ajoute un personnage qui s'appelle Rual, qui est un jeune Gaulois qui arrive et qui va devenir gladiateur. Alors là, ça nous fait des choses un peu musclées, si vous voulez, parce que sinon, on s'ennuie atrocement. Il y a des malheureux, une malheureuse. Bon, voilà, ça c'est Fabiola. Et on en arrive à l'objet du délit ou des délices, si vous voulez. On en arrive au dernier jour de Pompéi. Alors ça, c'est quand même plus intéressant. D'abord parce que Fabiola, là, en 47, on en est à la troisième mouture du film, du roman. Il y en aura eu quatre en tout. Alors qu'en ce qui concerne le dernier jour de Pompéi, on est incapable de savoir, moi-même, je suis incapable de savoir, est-ce qu'il y en a eu 20, 25, là, toujours, il y a des films qu'on n'a pas vus. Bon. Et là,
il y a certainement des muets qui ont disparu.
Oui, il y a des muets qui ont disparu. Il y a un muet qui s'appelle Martyr Pompéien. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Et là,
eh bien, je vais vous interrompre, Claude Aziza, car nous allons écouter en guise de musique, mais il y aura quand même un petit peu de musique, une fois n'est pas coutume, la bande-annonce de ce très vieux film. À tout de suite.
Collaborateur, mon associé, il favorise la construction par le procédé de la démolition préalable. Vivons en Brésil!
Combien je t'aime.
J'ai peur parce que je t'aime, Lysias.
Hélène, ma lumière.
Arbax t'aime.
Maudit sois-tu, Lysias, pour avoir profané le temple.
Maître!
N'essaie pas de me retenir. Tu ne lui sauveras pas la vie. À mort!
Que c'est toi qui as fait de Lysias un démon par jalousie. Par haine.
Dis-le-nous, Nazaréen, où est-il le royaume de Dieu ?
Alors, j'avais presque interrompu Claude Aziza pour pouvoir entretenir le suspense, mais pour vous faire entendre cette bande-annonce venue d'une époque complètement disparue, la bande-annonce d'un des nombreux derniers jours de Pompéi, c'est ce que vous étiez en train de nous expliquer dans Antiquissimo sur Radio Alliance Plus. Donc, beaucoup de versions des derniers jours de Pompéi, et nous, ce qui nous intéresse, ce sera de parler de celle où Micheline Prelle s'est illustrée.
Voilà, alors ça doit être la 8e ou la 9e version, je ne sais pas trop. Le réalisateur s'appelle Marcel Herbier. Marcel Herbier, on l'a un peu oublié, c'est le grand réalisateur du muet. Et là, il est en fin de carrière, il fait ce qu'on appelle tranquillement des ménages. Ça veut dire qu'il est allé tourner pour gagner un petit peu d'argent en Italie. Mais c'est la 4e fois qu'il fait tourner Micheline Prelle. Notamment dans un film extraordinaire, quelques années auparavant, qui s'appelle « La nuit fantastique », avec Fernand Gravé, le jeune premier de l'époque, qui a eu un succès fou, et qui a lancé d'ailleurs la carrière de Micheline Prelle. Donc, elle lui doit beaucoup, et j'imagine qu'elle n'a pas pu refuser, ou qu'elle n'a pas voulu refuser, le rôle qu'on lui offre. Alors, ce film est intéressant, mais pas pour les raisons qu'on pense. C'est l'histoire, je ne vais pas raconter les derniers jours de Pompéi, bien entendu, vous savez très bien, qu'il y a un jeune grec qui est amoureux d'une jeune fille, qui est la pupille du prêtre Arbacès, du prêtre Dizis. Bon, on ne raconte pas ça.
Depuis le temps, on connaît et le roman
Et toutes les adaptations, la plus célèbre est celle de Mario Bonnard et Sergio Leone de 1959. Bon, après, on a des pseudo-adaptations, peu importe. Mais ce qui est intéressant, alors au point de vue cinéma, c'est la seule fois qu'on voit dans un péplum un procès. Pourquoi ? Parce que ça commence, il y a un flashback, ça commence par le procès du jeune premier qui est accusé d'un meurtre, il a été drogué, qu'il n'a pas commis. Donc on voit un procès, ça c'est intéressant. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse.
Et c'est fidèle au roman, ça.
Et c'est fidèle au roman. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est justement la façon dont le film est tourné. Alors, donc, Michel Prel, c'est l'héroïne qui s'appelle Elena. Ici, ça ne correspond pas au roman, enfin, peu importe. Georges Marchal, c'est... Alors, c'est le...
J'attendais quand même qu'on en parle.
Oui, alors, Georges Marchal, je ne pense pas, ou je ne sais pas en tout cas, qu'il y a eu une incandescente histoire d'amour entre les deux. Je ne crois pas d'ailleurs. Georges Marchal, c'est le grand premier de l'époque. Il a joué dans tous les films de KPDP. On ne l'a pas oublié. Et dans le rôle du prêtre Arbacès, Marcel Héran, grande vedette, aussi des Enfants du Paradis. Mmh. Donc tout ça, c'est les acteurs français des années 50, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, pourquoi ? C'est que, manifestement, l'herbier n'est pas à son aise avec l'Antiquité. Alors, s'il fait quelque chose d'extraordinaire, il nous filme très longuement la Pompéi de 1948.
Et il ne sait pas qu'il fait œuvre d'archéologue, presque.
Eh oui, ça veut dire que le film est intéressant, moins par l'adaptation, mais surtout parce que ça nous montre, c'est devenu un documentaire, si vous voulez, oui. Ça nous montre Pompéi, de 48. Alors, Pompéi de 48, Pompéi avec les rues désertes, Pompéi sans touristes, Pompéi sans guide, Pompéi où n'importe
ouverte.
Qui... Ouverte. Ouverte, n'importe qui peut entrer. Et ce qui est intéressant, c'est que 5 ans après, Rossellini, dans Voyage en Italie, nous montre Pompéi de 53, avec une pseudo-découverte archéologique. Bon. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que finalement, ça mérite une réflexion un peu moins superficielle, si vous voulez. Finalement, c'est comment se fait-il ? À quel moment une œuvre de fiction va devenir un documentaire ? On peut déjà le voir. Si vous voyez un film, moi je suis passionné, quand on voit un film des années 50, je regarde les voitures des années 50, plus que l'intrigue du film. Eh bien, c'est devenu un état de Pompéi. Au fond, c'est Pompéi, quasiment, il y a 80 ans, hein, c'est-à-dire, c'est un Pompéi qui a disparu, et comme à l'époque on n'a pas eu l'idée de faire des documentaires, ça n'existe pas, pratiquement pas, il faut avoir recours à la fiction, alors que dans le Fabiola, il y a une reconstitution, il n'y a pas de fiction, on n'a pas remarqué que c'était hostie, et puis tout le monde s'en fiche un peu. Tandis que là, comme ça s'appelle les derniers jours de Pompéi, il faut bien qu'on monte Pompéi. Alors évidemment, la fin, ben c'est toujours comme ça, avec des images de volcans, avec du bruit, avec... Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est donc ça. C'est un témoignage inattendu, et c'est pour ça qu'il faut voir le film, qui est disponible en DVD. Comme Fabiola, d'ailleurs. Ce sont des films qui sont très disponibles, et comme Alexandre le Grand, hein, de Rossel. Donc, c'est pour ça qu'il faut... C'est comme ça qu'il faut le voir, ce film. Alors évidemment, on peut le voir d'une autre façon. On peut le voir comme un témoignage de ces acteurs français disparus. On peut le voir comme la dernière œuvre du maître du cinéma muet.
Et puis c'est quand même aussi un document dans la mesure où c'est un des derniers péplums français.
C'est le dernier. Voilà, c'est simple, c'est le dernier. Après, il n'y en a plus. Si, est-ce que c'est un péplum, à part le lamentable Vercingétorique de Dorfman qui est rien, c'est lamentable. Donc pour moi, c'est pas un péplum français, c'est un torchon pelliculaire. Bon.
On va pas voilà. Se faire des amis, là.
Non, peu importe. Même si j'aime beaucoup Lambert, hein, je trouve très sympathique. Bon, pas ça. Donc, voilà. Mais n'oublions pas quand même que Michel Prel a eu une énorme carrière. Il ne faut pas oublier qu'elle a tourné avec les plus grands acteurs de son époque.
Alors, quand je disais tout à l'heure que c'est une belle femme, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on n'échapperait pas au people, c'est que quand même, il y a un drôle de point commun encore entre elle et Michel Morgan.
Ah ben oui, il y a un drôle de point commun, c'est que le mari de Michel Morgan le réalisateur Bill Marshall, a divorcé de Michel Morgan parce qu'il est tombé amoureux de Michel Prel.
Michel Morgan,
Michel Prel.
Oui, oui.
Mais, oui.
On se croit obligé d'angliciser leur nom.
C'est
non.
Morgan de toi. Mais il se trouve donc que ce qui a donné une brève période hollywoodienne, 50-52, hein, à Michel Prel, où elle a tourné, et pas si bref que ça, parce qu'elle a tourné avec Tyrone Power et Errol Flynn. C'est extraordinaire. Mmh. Alors, je vous dis tout en détail, c'est que Michine Prenn a tourné avec Belmondo, a tourné avec
Delon. Donc, j'insiste bien, elle a piqué le mari de Michel Mangan. Oui.
Bah, oui. Il semble bien.
Bah oui, puisqu'elle s'est mariée avec après.
Et, bon. Il semble bien. Alors, Michel Mangan a eu de William Marshall un film, un fils qui s'appelait Mike Marshall. Et elle, elle a eu une fille morte avant, connue, morte avant elle, Toni Marshall.
Oui, elle est morte.
La réalisatrice de Vénus Beauté.
Oui.
Alors, quand même, on ne peut pas ne pas dire que Michel Prenn a été illustrissime dans deux grands films. Le Diable au corps, Raymond Radiguet, avec Gérard Philippe, qu'elle a lancé, elle a découvert Gérard Philippe, c'est elle, le talent. Et puis, Boule de Suif, de Christian Jacques.
Adaptation de la nouvelle de Maupassant.
Adaptation de la nouvelle. Ça, ce sont ces grands films. Il y en a d'autres, il y en a des dizaines. On pourrait les énumérer, mais ce n'est pas intéressant. Alors, quelque chose d'amusant quand même, c'est qu'elle a tourné avec Brigitte Bardot et Gina Lollobrigida dans un western mauvais de Christian Jacques qui s'appelle Les Pétroleuses.
Ah oui, c'est
donc
vrai.
Finalement, elle aura tourné dans un western de type mauvais. Elle n'a pas un grand rôle.
Oui, mauvais, mais un peu gay.
C'est
un peu amusant. Voilà.
Donc, c'est quand même...
C'est quand même une carrière, bien remplie,
voilà, c'est une
variée.
Carrière extraordinaire.
Oui.
C'est une carrière extraordinaire et on peut dire que d'une certaine façon, sa carrière et sa vie se sont déroulées sans, on va dire,
sans rupture.
Les scories qui ont émaillé la carrière et la vie de Daniel Darieux, par exemple. Je ne vais pas entrer dans
voilà,
les détails.
Daniel Darieux, justement, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais sa popularité a été quelque peu écornée par son rôle pendant la guerre.
Oui, bon, par amour, disait-elle. Mais enfin, peu importe. Et Michel Mangan s'est arrêté bien plus tôt dans sa carrière. Au fond, quand on parle de Michel Mangan, on voit bien, c'est Quai des Brumes, c'est Gabin, c'est surtout ça, peut-être un peu Jeanne d'Arc, pas tellement. Tandis que Micheline Prel a été jusqu'au bout.
Elle a quand même tourné un très beau film, il me semble, avec Bourville, non? Elle n'a pas tourné
Fortuna.
Oui, mais... Où elle est très émouvante.
Oui, mais c'est difficile. Elle a tourné avec Serge Reggiani dans un film policier qui s'appelle Le Chat. Mais Michine Prel a été jusqu'au bout et je crois que... moi, je m'arrête dans sa carrière et je crois qu'elle a fini d'une façon un peu spectaculaire, non?
Alors, spectaculaire, non, mais quand nous discutions de Micheline Prel, je vous ai beaucoup choquée en disant que moi, c'était pas du tout une actrice de péplum que j'avais dans mon cœur, c'est l'actrice des Saintes Chéries. Un feuilleton populaire qui a fait d'elle une gloire. Tout le monde connaît Micheline Prel pour cette participation là aussi très gaie, et j'imagine que c'était ce genre de femme-là, pétulante, pleine de vie, et qu'on retrouve avec Daniel Gélin dans ce feuilleton que la France entière regardait quand j'étais petite. Et donc, nous allons écouter, pour terminer l'émission, j'y tiens, un petit peu des Saintes Chéries. Merci, Claude Aziza.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.